9h20, Mathieu Lavallée, vous le connaissez, entraîneur canin, qui présente une nouvelle série qui s'appelle Vie de chien. Ça commence vendredi 6 septembre sur Ici Explora, 19h30. Bonjour, M. Lavallée.
Bonjour, M. Arcand.
C'est quelque chose. J'ai vu un épisode, le premier, où vous nous présentez votre domaine qui est absolument fabuleux, un espace dans Lanaudière. Vous dressez des chiens, vous accueillez des chiens dans votre chenil. Là, je comprends que c'était votre rêve, ça, d'être dans un espace où les chiens auraient pleine liberté.
Ouais. À l'origine, c'était pour mon bien-être à moi.
OK, oui.
Sauf que ça m'a permis d'offrir un environnement qui est adéquat aux chiens puis qui m'a permis de les observer d'un autre œil aussi.
C'est-à-dire, quand vous dites observer d'un autre œil?
Avant, je travaillais quand je faisais mes consultations, j'allais à domicile. Mmh. L'environnement qui est plutôt restreint, les chiens sont en laisse, les colliers, les quatre murs, ben, c'est plus difficile d'analyser les chiens puis de se faire une bonne idée de ce qu'ils sont pour pouvoir bien intervenir. Puis, dans le fond, ma plus grande influence, c'était Daniel Lafargue du Chenil de la Rivière-Blanche qui a des installations semblables aux miennes, qui élève des labradors lignées de chasse depuis une quarantaine d'années. Puis quand j'ai vu son environnement, mais j'ai compris ce qui me manquait, puis j'ai compris que j'avais beaucoup à apprendre encore avec les chiens en modifiant l'environnement.
Qu'est-ce que vous avez appris avec vos chiens depuis que vous êtes installé comme ça?
J'ai appris qu'on avait qu'on avait un grand désir de vouloir les posséder, mais qu'on les connaissait très mal. Souvent, l'environnement va être associé à ce qu'on appelle être des troubles de comportement. Puis il y a quelque chose qui me dérange là-dedans un peu aussi.
C'est pas le chien qui a un problème de comportement, c'est qu'il est dans un endroit ou un environnement qui lui convient pas.
Oui, c'est un peu comme essayer de mettre un cercle dans un carré. C'est pas le cercle qui est le problème, c'est pas le carré qui est le problème, mais la combinaison des deux, des fois, est un petit peu plus difficile.
Je ne veux pas tout dévoiler, les gens le regarderont, mais il y a un moment, et c'est pas très long, là, où vous expliquez comment on fait marcher un chien, par exemple, près de soi, puis que le chien... Et par un simple geste, vous le bloquez à un moment donné. Là, et là, c'est désagréable pour lui. Uh-huh. Et là, on découvre que ça prend juste ça, puis le chien ne s'approche plus. Là, il garde une certaine distance. Ouais. Parce qu'il n'a pas aimé ça, il n'a pas apprécié ça.
Uh-huh. C'est le principe de punition, c'est un sujet que je vais aborder aussi dans les épisodes durant la série. Mais effectivement, pour pouvoir bien intervenir, il faut les observer. Puis pour les observer sans l'intervention de l'homme, t'sais, les regarder vivre, à partir du moment où on se fait une bonne idée de ce qu'ils sont, qu'on les regarde interagir entre eux autres, on sait comment on va pouvoir les encadrer. Fait que les micro-mouvements, quand on parle d'entraînement, ben, sont définitivement primordiales. Puis ça fait la différence entre un bon entraîneur et un très bon entraîneur.
Il y a une phrase au début où vous dites quand on veut avoir un chien, il faut voir un peu ce qu'on a, nous, à lui offrir à ce chien-là. C'est-à-dire quelle sorte de vie on a, mettons, on est présent, pas présent, quelle sorte d'environnement, quelle sorte d'espace. Puis vous dites, idéalement, avant de l'acheter.
Oui. On essaye de régler, on a un problème de société. Là, les fourrières, d'année en année, je pense que les statistiques le disent, ils n'ont pas une tendance à vouloir se vider. Ils ont une tendance à vouloir se remplir. Fait que mon travail, j'essaie de travailler un peu plus en amont pour arrêter de remplir les fourrières et non pas travailler en aval pour essayer de les vider. C'est un peu étrange comme raisonnement, mais un de mes objectifs suite à cette série-là, c'est peut-être qu'il y ait moins de gens qui décident de... s'acheter de chien.
Mais en même temps, c'est comme s'il y avait, deux phénomènes. Il y a des gens pour qui leur chien, c'est comme un enfant, ou en tout cas, c'est peut-être même trop. J'ai eu des discussions avec Mario Dumont, qui a été élevé à la campagne, qui a dit, là, il ne faut pas venir fou. Il y a un dosage. Donc, des gens pour qui c'est extrêmement important, puis c'est majeur. Mm-hmm. Puis en même temps, il y a des gens qui négligent leur animal, là, ou...
Ça, ça a été prouvé scientifiquement. L'effet que le chien ou les chevaux ou les chats ont sur l'humain, là, je ne suis pas un scientifique, mais ça a été prouvé que les hormones qui sont sécrétées, l'effet que ça a sur l'humain, c'est semblable à l'effet qu'un parent va avoir à la vue de son enfant.
À ce point-là, oui.
C'était prouvé. Fait que je suis conscient que le chien apporte beaucoup à l'humain, mais il faut penser aussi au... Est-ce que l'humain apporte autant aux chiens. Puis ce qu'on pense, tu sais, quand on pense d'en prendre soin, il y a une question de perception ou ça. Tu sais, il y a la maltraitance, c'est une chose, mais de
pas bien s'en occuper, là.
De pas bien s'en occuper, c'est une chose, mais de penser bien s'en occuper aussi, c'est une autre chose. C'est pour, tu sais, comme moi, j'ai un chiot, là, présentement, et il y a 3 mois, il n'y a jamais eu de collier, il n'y a jamais eu de laisse. Un chiot, il faut le laisser vivre avant de commencer à l'encadrer. Puis je peux pas m'empêcher, je ne suis pas un pédiatre, là, mais je peux pas m'empêcher le parallèle avec les enfants. Je me reconnais un peu là-dedans. Moi, quand j'étais à l'école, l'environnement dans lequel on me mettait faisait que je devenais un problème. Fait que est-ce qu'on m'a fait sentir longtemps que j'étais un problème à l'école? Tu sais. Fait que si on prend le chien puis on le change d'environnement, le problème change de place ou le problème disparaît.
C'est vrai, que vous avez parfaitement raison. J'écoutais hier, là, il faut se poser des questions. C'est pas un achat banal là, quand on va chercher un chien. Là,
de... Non, mais, ouais. Mais on le banalise, par exemple.
Oui, ça, c'est vrai. Puis, c'est-à-dire, la race aussi, parce que des races sont différentes, des tempéraments différents de chiens. Puis, c'est quoi qu'on a comme environnement? Puis, c'est quoi le temps qu'on a à consacrer à un chien aussi? Là?
Et on le sous-estime énormément. T'sais, les réflexions sont faites. On a peu d'informations pour prendre des décisions éclairées. Fait que les gens ont plein de bonne volonté, ça je suis conscient de ça, mais il y a la volonté, puis il y a la façon qu'on va s'informer. Fait que le peuple québécois francophone a un petit peu moins d'années d'ancienneté à côtoyer les chiens que les anglophones. Je vois, il y a une différence, par exemple, avec l'Ontario, juste au niveau de l'élevage. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bons éleveurs au Québec. Là. Je ne suis pas en train de juger personne. Je fais juste un constat que ça fait plus longtemps que... Par exemple, la médecine vétérinaire anglophone a peut-être une centaine d'années d'avance sur la médecine vétérinaire dans le milieu francophone. Fait que c'est quelque chose que... Les Québécois, on est un peuple jeune. Cette relation-là qu'on a avec le chien est en développement. Puis je pense que je peux apporter... quelque chose d'important. Je pense que je peux apporter quelque chose dans la réflexion.
Parce que vous êtes l'anti-César, là. C'est-à-dire, vous êtes...
Je suis pas anti-rien.
Non, mais vous trouvez que quoi, il est trop raide?
Non. Ça, c'est un vieil article qui traîne dans le Journal de Montréal, qui traîne sur Google. Là, j'ai jamais dit que j'étais anti-César. En fait, un journaliste du Journal de Québec a mis ce titre-là. Puis là, avec le merveilleux monde de Google aujourd'hui, ben ça colle. Là. Mais je veux dire, César Méline, je la connais pas. Ses méthodes, comme...
Ils font pas les vôtres, non? Êtes-vous différent, j'imagine?
Ben, je suis différent, c'est clair que je suis différent, mais tout ce que je sais de César Méline, c'est ce que j'ai vu à la télévision. Il y a des choses avec lesquelles je suis en désaccord, mais il y a une chose que je peux y donner, par exemple. Ce gars-là a côtoyé des chiens, il les connaît. Dans ses méthodes d'intervention, c'est clair que je suis pas d'accord avec tout, mais je suis pas un anti. Okay. Je suis pas un pro rien et je ne suis pas un anti rien.
Dans l'émission, vous parlez de votre premier chien, Raoul.
Raoul.
Ça s'est pas bien terminé dans son cas là. C'est la première fois que vous aviez un animal à vous là.
Ouais. C'était un moment important pour moi. Aussitôt que j'ai eu mon premier loyer. Mais je me suis permis de posséder un chien. Puis j'ai appris...
Si vous aviez à le décrire, votre chien?
Très caractériel. une personnalité qui était forte, mais que j'ai pas su déceler. Puis à l'époque, l'entraîneur avec qui j'ai travaillé m'a invité à le confronter. Donc quand l'objectif avec un chien, c'est comme avec l'humain, c'est toujours une négociation. Puis pour moi, le respect... est très important. C'est quelque chose que... Ce n'est pas juste le chien qui nous le doit, ce respect-là, on y doit aussi. Puis de juste vouloir briser sa personnalité, c'est possible avec... c'est possible. C'est pas ce que j'encourage, mais en fait, si on le fait, on rend le chien malade. Mais il y a des chiens que... Si j'utilise le terme « casser », on s'entend. Mm-hmm. Je suis plus ou moins à l'aise avec le terme, mais on se comprend.
OK, on se comprend.
Ben, si je veux le casser à un chien comme Raoul, ben, il va arriver ce qui est arrivé. C'est qu'il va il a la capacité de pouvoir se révolter. Fait que ce chien-là, on m'a dit que ce chien-là avait un gros caractère et qu'il fallait que je le casse.
Ce que vous avez essayé de faire.
Ce que j'ai essayé de faire avec le peu que je connaissais. Donc, on est très maladroit, puis on saisit mal les termes. Mm-hmm. Puis je l'ai appliqué comme je pouvais. Ça a fini qu'il me l'a lancé, le message, que lui, il ne comprenait pas ce que j'essayais de moi lui faire comprendre. Puis il s'est révolté, puis il m'a mordu. C'est la plus belle leçon que j'ai pas pu avoir avec les chiens.
Et vous l'avez fait euthanasier.
Je l'ai fait euthanasier parce qu'il était devenu dangereux. Celui qui l'a rendu dangereux, c'est moi par les méthodes qu'on m'a enseignées.
Ça m'amène à vous parler des fameux pitbulls, puis un règlement à Montréal, puis bon, c'est toujours le même débat, c'est est-ce qu'on doit interdire une race ou une famille de chiens? Là, je comprends qu'on peut, avoir des règlements, puis la muselière, puis bon. C'est quoi votre position, vous, là-dessus?
Je l'attendais, celle-là.
Bien, c'est sûr.
C'est sûr. C'est un sujet qui est très, très... En fait, il y a les lois. Moi, j'ai pas choisi d'être un maire, j'ai pas choisi d'être un avocat ou un juge. Là. Il y a moi, je sais ce qu'ils sont, et je sais qu'il y a un problème avec ce qu'ils sont à vivre dans une société qui a des... qui accepte ce qu'elle accepte. Là.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça, là?
Bon, on va. Par rapport au. Tu sais, quand vous me parlez de pitbull, je sais que ce que vous sous-entendez, ce n'est peut-être pas nécessairement aussi juste le pitbull. Peut-être plus le type pitbull ou les molosses.
C'est ce que je veux dire, là.
OK. Parce qu'on n'est pas en train de définir une race, mais on se comprend.
Non, une famille.
Exact. Ouais. On comprend. Premièrement, l'agressivité, c'est quelque chose qui est propre à peu près tous les mammifères. Donc, tous les humains, tous les chiens sont agressifs. Donc, si on me pose la question à savoir si le chien type pitbull est un chien qui est agressif, bien, définitivement, la réponse, c'est oui. Le labrador aussi et le chihuahua aussi. Ce qui est important d'évaluer, et le troisième épisode de la série parle de, justement, le problème d'agressivité et l'évaluation du degré de dangerosité. Donc, ce qui est mal évalué, ce qui est mal compris, c'est ce qu'est l'agressivité et ce qu'elle est en lien avec le chien. Et à quel moment elle peut surgir et à quelle intensité. Donc, il y a plusieurs facteurs qu'il faut évaluer. Une des caractéristiques qui rend le pitbull peut-être plus à risque dans certaines
circonstances,
c'est que c'est un chien, en général, c'est une caractéristique de la race. Je ne suis pas en train de dire qu'ils sont tous comme ça, mais en général, c'est un chien qui est explosif.
Puis il a une capacité physique...
de faire mal. Ouais. J'ai un de mes clients qui a son teckel de 12 livres, qui s'appelle Titom, qui mord depuis 7 ans, mais qu'on le gère bien avec une muselière. Et on sait très bien qu'il n'arrachera pas le bras d'un de ses enfants. Fait que la force de la morsure fait partie de l'analyse dans l'évaluation du degré de dangerosité. C'est certain que le pitbull a une capacité... à faire plus de blessures que la majorité des autres chiens.
Prenons l'exemple d'une ville comme Montréal.
Mm-hmm.
C'est un endroit où un chien de ce type-là, là, avec, comme vous dites, sa capacité d'exploser, puis bon, est à l'aise? Milieu urbain par rapport à un milieu plus...
Ben, c'est certain qu'avec c'est pas un choix très éclairé.
D'avoir un pitbull.
D'avoir un pitbull. T'sais, il existe à peu près 2000 races de chiens, mais je dis pas qu'ils sont pas fins. Je suis pas dans. Je suis loin de là parce que c'est un sujet très émotif, hein, les chiens.
Oui, non, ça, je sais.
Très émotif. Fait, dans le fond, ce que je dois faire attention au choix de mes mots. Là. Le pitbull, c'est un chien que j'adore dans le contexte chez nous, que je vais le gérer en fonction de ce qu'il est. C'est un chien que j'ai plus de difficultés à mettre en contact avec les autres chiens, de façon générale, parce que s'il explose, il va avoir plus de frais de vétérinaire. OK, on s'entend. Fait que un pitbull à Montréal, c'est pas la meilleure idée. Il existe à peu près, ça c'est mon point de vue, il existe à peu près 2000 races. Puis si on multiplie tout ça ensemble, puis qu'on on compte le nombre de bâtards qu'on peut faire aussi, ben je trouve que c'est un choix qui est pas nécessairement le meilleur.
OK, non, mais c'est parfait. Je veux dire quelque chose, mais je veux pas vous mettre dans le trouble, dans le sens... Moi, des fois, je me dis... Vous venez de décrire, disons, le côté physique du chien.
Mm-hmm.
Puis moi, je regarde les maîtres, des fois, là.
Ouais.
Puis c'est un mauvais mariage, là. T'as le chien explosif, puis le maître qui l'est aussi, là.
Ben, le chien qui... Ouais. Je veux...
Pas tous, là. On est d'accord, là. Ouais. Mais je veux pas généraliser.
Ouais. Parce que c'est risqué de généraliser. Non, c'est du cas par cas.
C'est vrai. Mais moi, j'en croise de temps en temps, là. Tu dis, le chien est aussi explosif que le maître ou le maître est aussi explosif que le chien, là.
Ben, c'est certain que dans une combinaison comme celle-là, c'est pas gagnant. Mais j'ai déjà vu. Tu sais, je vois des fois des jeunes de la rue, des itinérants avec leur chien pitbull ou type pitbull qui me. Ça me touche. Tu sais, c'est des chiens qui sont. dans le contexte dans lequel ils sont, malgré qu'ils soient à Montréal, des fois, sont détachés. OK, les jeunes sont hors la loi, là, du fait que le chien soit détaché, mais quand je vois un Squeegee sur le coin de la rue, avec son chien qui est assis puis qui a pas de laisse, puis qui est un danger beaucoup moins potentiel que certains d'autres chiens que je peux croiser dans les mains de certains autres maîtres. Tu sais, je veux pas tomber dans le... Pour parler d'agressivité de ce dossier-là, faut le gérer cas par cas. Puis moi, j'ai choisi de vivre dans le bois avec les chiens dans un environnement qui leur convient pour pas être mêlé à ce débat-là. J'ai une opinion, j'en partage un bout. Je le sais que, pour moi, les chiens ont plus ou moins leur place en ville. La preuve, c'est que je me suis retiré, puis j'ai le goût de leur donner ce l'environnement dans lequel ils sont le mieux.
J'écoutais votre émission hier, je me sentais coupable.
C'est pas mon objectif.
Mais c'est correct, parce que c'est vrai. En fait, j'avais une maison, puis il y avait un terrain assez grand, puis le chien pouvait courir, vend la maison, vient vivre en ville. C'est un ajustement, ça va pas si mal. Puis là, je vous écoute, j'ai dit, ouais, il a raison, lui-là. Là. Puis là, tu dis...
Je suis content de l'entendre en même temps. Si vous vous sentez un peu coupable, j'ai un peu réussi ma mission. Mais le but, c'est pas de rendre les gens coupables, c'est de les amener à prendre des bonnes décisions avant de décider de posséder un chien. Puis l'humain est extrêmement égoïste dans cette décision-là de vouloir posséder un chien.
Qu'est-ce qu'on va voir dans les autres épisodes? On en a parlé du côté de l'agressivité.
On va parler de réhabilitation, on va parler de l'entraînement pour la chasse, canard ou tarde avec les chiens, avec les griffons aussi.
Oui.
Ça m'arrive d'imprimer un petit peu pâle.
Non, mais c'est correct. J'ai une dernière question. Puis encore là, qui est extrêmement... Comment dirais-je? Qui suscite beaucoup d'émotions. On parlait tantôt de médecine vétérinaire. Puis là, on regarde des traitements qui sont offerts à des chiens. Un diagnostic de cancer ou un chien qui a une amputation. Puis là, des fois, tu te dis... Est-ce que le maître... faire tous ces traitements-là pour lui? Est-ce que dans l'intérêt du chien, pour sa qualité de vie, ça vaut-tu la peine? Trouvez-vous des fois qu'il y a de l'acharnement à soigner, dans le fond, un animal?
Oui. Ouais. Je trouve qu'il y a quelque chose de très... C'est des belles intentions, mais il y a quelque chose de très égoïste d'étirer la souffrance d'un animal. T'sais, si je vois un chien sur les médias sociaux qui a deux petites roulettes en arrière parce qu'il n'y a plus de pattes, il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose de bien là-dedans, il y a quelque chose que j'ai le goût d'encourager, mais en même temps, il y a quelque chose qui me dérange aussi, parce que si je me mets à la... Il y a quelque chose qui me dérange.
OK. Mathieu Lavallée, merci beaucoup d'être venu ce matin.
Merci.
Toujours agréable. Donc, l'émission s'appelle Vie de chien, présentée sur Ici Explora. Et ça commence vendredi 6 septembre, 19h30. On fait une pause, on revient après, évidemment, avec le sujet de tribune.